Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ce matin encore dans cet atelier de violon baroque. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Bon, la voûte, elle est... On fait son dessin à l'extérieur, comme oui. ça. Et puis après, pour la sonorité, c'est vraiment le plus important. On va évider l'intérieur en fonction de la voûte extérieure pour trouver une épaisseur de, disons, 4 mm sur l'arête centrale, qui descend à 3,5 dans les bords. Mais ça dépend, chaque luthier a ses petits secrets. Alors on va refaire un équivalent de travail de voûte à l'intérieur. Oui.
C'est délicat ça, parce qu'on risque de percer.
Ça, c'est le plus difficile à réaliser mécaniquement quoi, avec les outils. Puis c'est le plus difficile pour la sonorité du violon d'arriver à trouver son style et sa manière de gérer la souplesse de la table avec des épaisseurs différentes. Il faut réagir en fonction du bois qu'on a dans la main aussi, parce qu'il y a des bois qui sont plus lourds, qui sont plus rigides. Et on peut aller un petit peu plus fin. Puis sur des bois plus mous, il faut laisser un peu plus d'épaisseur. Ouais.
Bien sûr, nous avons tous à l'esprit en ce dernier jour de cette série. Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Nous avons tous à l'esprit les secrets de fabrication qu'on recherche chez les grands Stradivarius et autres Amati. Mais il y a aussi ce savoir-faire, cette expérience qui s'acquiert au quotidien. On s'en rend bien compte après votre visite à l'atelier de musique ancienne de Gruyère, quatrième du nom. Il y a une culture de l'instrument. Il y a ces outils si spécifiques, et puis il y a ce geste de construction avant le geste baroque, celui de l'interprétation, David Mestri.
Voilà, et ces gestes sont supervisés dans ce cadre par le luthier de la Neuve-Ville, Pierre Louis, que l'on va retrouver aujourd'hui à la fin de ce stage, puisque une semaine, c'est le temps que se sont donnés les participants à cet atelier de musique baroque pour construire un violon.
Ça prend plus de temps, normalement.
Ça prend beaucoup plus de temps, et d'ailleurs, certaines des pièces étaient déjà préparées un peu à l'avance, et le violon n'est pas terminé au dimanche de la fin de ce stage, mais nous allons voir dans quel état il se trouve maintenant avec les participants au stage, les stagiaires qui nous donneront leur impression finale sur cet art qu'ils ont pu approcher et sur les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on essaye de fabriquer un violon baroque. Une éclisse qui a cassé oui, sur le fer.
Ouais.
T'es trop chauffé ou trop plié ?
Non, disons c'est que quand on le plie, il faut donner un peu de force dessus. Mais justement, il faut doser la force là, et puis à peine qu'on presse trop fort, ça se casse. Et surtout avec un bois qui est flammé, parce qu'on voit qu'il a,
il a
poussé vraiment
comme
ça. C'est un bois qui est pas flammé du tout, ce serait c'est beaucoup plus facile.
C'est l'érable ondé de l'église, tout fin aussi. Hein.
Ouais.
Et l'érable, ça vient d'où, d'ici, de Suisse ?
Oui, c'est l'érable suisse, celui-là.
Oui, de où
Du Jura.
Jura.
Ouais, ouais.
Il y a combien de temps doit être ferme ? 5 ans
Bon, on dit minimum 5 ans, mais ça c'est des bois, ça fait 10 ans qu'ils sont
coupés. Moi, une fois j'étais à Madagascar et j'ai pris un morceau d'ébène.
Ah oui ? Oui.
Oui. Et ils m'ont dit de les garder au moins 5 ans.
Ouais.
Mais moi j'ai déjà de l'année 97 que je l'ai déjà. Une pièce d'ébène. Très joli du centre de l'arbre, non le noyau.
Ouais.
Complètement noir. Pas de...
Non.
Alors l'ébène, moi j'ai vu, j'avais aussi acheté une fois vraiment un bloc, mais il était très... Il avait beaucoup de fentes, d'irrégularité dedans aussi.
Oui.
C'était pas l'ébène qui est bien droit, donc à travailler c'est difficile. Pour vraiment faire du massif avec, ça va. Mais si on veut faire, par exemple, préparer pour du plaquage, c'est mon problème.
Sinon, pour chevilles, peut-être, qui sont plus petites.
Ouais, mais même les chevilles, justement, c'est presque trop... Les veines ne sont pas assez régulières. Et puis ça se casse quand même facilement, une cheville, après, si elle n'est pas bien droite. Moi, je collerai le même comme ça, parce que je suis sûr que ça va lâcher, tout ça, celui-là aussi.
Ouais, ça va bouger.
Ouais.
À la cyanon ou pas, Loubert ?
Non, tu peux coller un point de colle comme ça, mais juste, tu le mets comme ça, ce sera du provisoire. Et moi, je suis persuadé que si je le prends chez moi, où il fait 40% d'humidité, c'est clair que l'érable il va se retirer comme ça. Et puis le buis dans le sens de la longueur, il va pas pouvoir bouger, puis il va décoller. Alors il faudra recoller de toute façon les deux bouts.
C'est la touche, une très jolie touche avec son plaquage d'ébène que vous avez dans les mains là, Philippe Moterio. Oui. Mais vous hésitez à coller le dernier morceau à cause de l'humidité qu'il y a ici.
Ici au château, dans la salle des gardes, il y a 82-83% d'humidité, c'est vraiment beaucoup. Alors pour faire des collages sur le sapin, il vaut mieux un 45% d'humidité ou même moins. Alors dans un atelier de lutherie, en général, on contrôle ça, déshumidifie. Ou bien, personnellement, je colle toutes les pièces de sapin, qui est un bois très sensible, qui bouge beaucoup avec l'humidité. Je fais tous les collages dans une caisse dans laquelle il y a un halogène qui chauffe, et le taux d'humidité descend à 40%. Voilà.
Il n'y a pas du tout de luthier dans les pays tropicaux, par exemple. C'est un métier qui est très, très difficile.
C'est certainement possible. Il y a des gens en bord de mer, en Espagne, qui construisent des guitares, mais dans des locaux qui sont déshumidifiés, oui. Asséchés, comme ça. Sinon, les guitares ou les violons qu'on construit se fendent. S'ils ont été construits avec trop d'humidité, le bois, quand il sèche, il se rétracte, mais comme il est collé sur tout le pourtour, eh bien, il fend.
C'est deux pièces qui sont joliment assorties, non ?
Oui, oui. Le cordier, donc, qui est la plus petite, et puis la touche, qui ne sont pas entièrement en ébène comme sur les violons qu'on a l'habitude de voir, mais qui sont en bois clair avec juste le plaquage d'ébène sur le dessus.
Voilà, ça, c'est une grande différence par rapport aux violons modernes, c'est que la touche, qui est assez grosse, en fait, elle est en sapin. Le cœur est en sapin. C'est un bois évidemment beaucoup plus léger que l'ébène. Et puis on met juste une couverture en ébène là où on joue, sous les cordes, ce qui fait que la résistance mécanique sous les cordes est la même que sur un instrument moderne pour une touche qui est deux fois plus légère, tout en étant plus grande, voilà, plus grosse. Je ne sais pas en fait vraiment pourquoi on utilise l'ébène massif pour les violons, Pierre, parce que c'est un bois qui est aussi très sensible à l'humidité.
Bon, moi je pense que c'est vrai que ça, c'est quand même assez stable, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que ça s'use très très vite, hein, avec les cordes, quand surtout même les cordes qui sont entourées de métal, qui jouent beaucoup. Mais deux fois par année, il faut enlever une couche, il faut raboter un peu la touche parce que les cordes, elles ont fait leur canot, elles ont creusé la touche. Ouais.
Là, ça va se passer aussi sur ce plaquage en ébène.
Avec les cordes en boyau, beaucoup moins, ça c'est sûr, c'est beaucoup moins agressif sur l'ébène. C'est pour ça qu'on peut se permettre du plaquage. Là je pense qu'on peut jouer 10 ans avant que ça soit...
Et on peut ça user.
On peut remplacer facilement la petite pièce. Enfin, facilement. Ça fait une semaine. Oui, oui. Elle a la courbure, le collage est très...
En même temps, ce qu'on rabote tous les 6 mois, disons, c'est très peu, mais ça, si on ne le fait pas, ça suffit pour donner des vibrations quand on joue. Quoi. Donc même là, on pourra même raboter une fois ou deux sans enlever tous les bennes. Ouais.
Il y a quand même une épaisseur de 1,5 mm.
Qu'on voit sur le côté. Là. Ouais.
C'est le principe de construction des manches, des luths et des guitares anciennes. On construit l'intérieur du manche en bois très léger, souvent en sapin. Et puis on couvre le tout à l'arrière, là où on pose le pouce, avec des plaquages de différents bois durs, souvent avec des motifs décoratifs. Et puis sur le devant, où on joue avec les doigts, c'est de l'ébène. Alors ça fait un coffrage complet. Le cœur qui est en sapin, très léger.
Et là, sur ce violon, le pouce s'appuiera directement contre le sapin ? Dans le manche ou contre le...
En fait, la partie en sapin, on ne la verra pas, puisque c'est couvert sur l'avant. À l'arrière, il y a un sillet et le dessous est collé sur le manche. C'est une partie qui sera secrète.
Oui. Et pour le manche, alors, c'est en quel bois ? C'est le manche, il est en érable, hein ?
Comme là, le violon.
Le pouce s'appuie ici derrière, en fait. Il n'y a pas d'autre plaquage.
Non, pas du tout. C'est une partie qui n'est pas vernie, de la même manière que le corps du violon, où il y a un vernis à l'huile, souvent assez tendre, qui colle un petit peu sous les doigts, surtout si on pèse longtemps au même endroit. Mmh. Alors sur la partie du manche où on a la main qui s'active, on met un autre type de vernis à l'alcool qui est un peu plus dur et qui se ramollit pas sous la chaleur et l'humidité des doigts. Voilà. En général, une gomme laque à l'alcool. Juste cette partie-là, donc en fait le corps de l'instrument a une couleur qu'on retrouve sur toute la tête, sur la volute. Il y a juste la partie du manche à l'arrière qui est en général plus blanche. Voilà, ça c'est typique de tous les violons.
Anne-Catherine Gigi, vous êtes en train de travailler les filets sur la voûte du violon qui est en construction. Et là, je vous vois regarder le modèle qui est présenté en exposition dans cette salle des gardes du château de Gruyère, qui a été fait par le maître du stage, qui est Pierre-Louis, avec beaucoup d'admiration.
Alors effectivement, je m'émerveille vraiment devant le travail de notre luthier. Ce que je trouve extraordinaire, en fait, dans le fait de faire soi-même le mouvement, et puis bien sûr, je suis complètement novice, donc je découvre. Alors, d'abord, je me dis, ouh, mais c'est merveilleux ce que ça rend. Puis après, quand on va voir le modèle qui a été fait par Pierre-Louis, je m'émerveille de la beauté du geste, de la précision de la ligne. Donc, puisque là, il s'agit des filets qui sont au bord.
Qui est le décor au bord de la table.
Voilà. Et c'est d'une perfection. C'est absolument lisse et régulier. Mmh.
Et ça se travaille, j'ai vu comment vous le faisiez, avec une petite gouge. Donc les filets ont été mis de façon verticale sur cette table.
Oui. On a d'abord creusé une petite rigole. Les filets ont été faits séparément, ont été également... La forme a été travaillée. Puis ensuite, on a enfoncé les filets dans cette petite rigole. On les a collés hier soir, ça a séché cette nuit. Puis maintenant, avec cette petite gouge, je peux égaliser la... enlever la hauteur en fait et puis racler un petit peu pour que ça soit vraiment lisse sur
ce qui donne un aspect un peu dans, on dirait simplement une petite ligne de crayon au bord de ce violon. Et c'est difficile alors de garder chaque fois que ça soit parfaitement...
Ce qu'on constate quand on fait ça, alors le décor ressort complètement et puis c'est là qu'on voit à quel point on a creusé la rigole de façon lisse ou un peu moins lisse peut-être. Si vous venez voir un autre modèle, il y a des tas de petits trous par-ci, par-là, qu'on n'a pas ici. Alors c'est joli aussi, mais on constate qu'il y a de temps en temps des irrégularités ici. Mm-hmm.
Et ça, ensuite, avec le rabotage final,
on ne peut pas seulement le rabotage. Il va falloir, je crois, un petit peu les colmater, mettre. Parce qu'en fait, c'est du vide. Hein. C'est pas l'ébène qui a tout d'un coup fait un petit. Mais moi, je vous signale que les défauts, je ne devrais pas.
Non, mais c'est comme ça qu'on apprend, peut-être.
Mais disons, en tout cas, ça nous conscientise de ces choses-là, de ces détails-là, et c'est vrai que...
C'est vrai qu'un violon est un très, très bel objet, mais on ne se rend pas toujours compte de la précision et le métier pour le travail du bois avec cette précision à la manière ancienne. Vous-même, Anne-Catherine Gigi, vous êtes professeure de violon au conservatoire de Fribourg et vous avez joué du violon baroque depuis quelques années.
Depuis 2 ans, oui.
2 ans. Et puis vous avez eu envie de participer donc, à ce stage de lutherie.
Lorsque j'ai appris que ce stage de lutherie était ouvert à n'importe quel novice, je me suis dit, mais c'est merveilleux, parce que de pouvoir une fois suivre de près et toucher soi-même à la fabrication d'un violon, c'est, je crois, un enrichissement formidable.
Ça change la vision de l'instrument qu'on a.
Pour quelqu'un qui tient l'instrument tous les jours, cet instrument tous les jours dans ses mains, de savoir comment il a été fabriqué et d'avoir une fois pu faire cette démarche. Enfin, je vois déjà maintenant, au bout de quelques jours, je vais regarder mon violon autrement. Vraiment.
Donc on prend une petite clochette. Donc ici on va sortir des lamelles de... Donc l'épaisseur, elle est juste. Maintenant ce qu'on va faire, c'est des lamelles de 7 mm comme ça dedans. Pour plier après à l'intérieur des éclisses avec la même forme. Les contre-éclisses pour donc ça sera pour que la surface de collage soit plus grande sur le. Alors ce qu'il faut d'abord, toi là tu vois bien c'est creux, donc il faut bien le mettre à plat. Puis en même temps tu peux regarder les lignes des cernes, là, les années. Essayer de suivre le plus possible. Ouais. Ça serait plus facile à les travailler. Et comme ça prend bien partout, c'est bien droit. Et puis là, après, on va les couper avec ça.
La sculpture de la tête là, que l'on voit faire, Pierre-Louis, c'est une partie qui n'a pas d'influence autre qu'esthétique sur le violon. C'est là que la signature d'un luthier se met avec la précision, la beauté d'une volute.
Oui, c'est effectivement. Bon, il y a un équilibre qui doit se faire par rapport au poids. Et puis que c'est bien qu'il y ait un peu du poids au bout du manche, comme ça. Mais après, c'est vrai que ça...
La cannelure là, qui est réalisée sur l'arrondi qui est au sommet du violon, donc elle est simplement décorative.
Oui, oui. Au principe, c'est vrai que justement, il faut un peu de masse là, au bout du manche. Mais ce qu'on fait après, c'est qu'il y a aussi beaucoup des luthiers qui ont fait des têtes de lion. Mais bon, c'est vrai qu'en principe, les luthiers, ils font plutôt des volutes, justement. Et puis à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient à faire les têtes de lion, des têtes d'ange, comme ça, ils les donnaient à faire à des sculpteurs. Parce qu'en fait, c'est...
Et la forme traditionnelle de la volute, elle a un sens symbolique, on connaît un peu les ressorts. Pourquoi est-ce que c'est cette forme qui s'est imposée, qui est restée jusqu'à aujourd'hui?
Je pense que c'est vraiment l'époque baroque où on retrouve un peu cette forme aussi dans la pierre, dans certaines fioritures et... C'est vrai que je pense que ça fait partie de cette époque, quoi.
Mmh. Au lieu de là, il y a 3 tours en spirale, c'est ça, sur la tête d'un violon.
Oui. Et il y a certains luthiers qui en ont fait même 5. Non, c'est vrai qu'il y a, beaucoup de différences. Il y a aussi, par exemple, les luthiers allemands. Alors, ils faisaient le même nombre de tours. Par contre, l'escargot, si vous voulez, la volée, au milieu, elle venait très, très petite. Mmh. Et puis ça faisait c'est un aspect très sympa aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un peu la signature du luthier. Si on regarde, on peut assez facilement reconnaître un violon par rapport à ça.
Et aussi la qualité d'un violon, la qualité de la finition artistique aussi. Finalement, c'est pas toujours lié.
Il y a des instruments qui sont très bien et puis qui sont justement d'une finition pas... Bon, j'ai vu des violoncelles Testor, par exemple, avec des immenses nœuds dans le fond. Et c'est des instruments qui sonnent bien. C'est pas toujours lié, non. Vous avez vu le bouquin, là, avec les sculptures ?
Avec les instruments très ornés.
Oui,
ouais. Ouais, c'est très étonnant, ça. Des instruments
de... Des sculpteurs.
Ah, sur la... Ouais. Différentes têtes avec des anges, avec des... C'est même... Mais c'est tout de la sculpture ou c'est collé ces non, formes. C'est sculpté dans, la, dans une, ouais, une ouais. pièce.
Puis c'est vrai que si on regarde les têtes de Stradivarius, qui sont très épurées finalement après, avec un, aussi donne un axe un peu décentré comme ça, qui fait que ça fait un, ça donne un élan dans la tête. Elles sont très.
Oui, on a un exemple là sous les yeux dans un de ses livres. Et, ouais, qui décrit plusieurs instruments anciens célèbres.
Ouais, c'est l'école de Crémone, là, en fait, ce livre. Donc on voit vraiment le Amati, Stradivarius, puis les Bergonesi, tout ça.
Un bois que vous n'avez pas ici, mais qu'on a vu tout l'autre jour lors de la présentation des archers, Pierre-Louis, c'est le palissandre, dont les copeaux peuvent servir aussi pour, comme teinture. C'était une... C'est alors, une propriété assez étonnante de ce bois.
Oui, c'était pas le palissandre, c'était le pernambouc.
Le pernambouc, d'accord, qui... qu'on utilise pour les baguettes d'archer.
Oui, oui. Alors là, pour la couleur du vernis, oui. D'ailleurs, le violon ici, ça c'est vraiment, ça c'est de la couleur de pernambouc.
Donc il faut laisser macérer les copeaux et ça fait une teinture ou comment?
Oui, donc là ils sont macérés dans de l'alcool. Et puis une fois que... Alors c'est assez impressionnant quand on le met directement sur le violon, c'est très jaune, presque fluorescent comme ça, c'est très lumineux. Et puis après 2-3 jours, il tourne dans le brun orange, c'est une couleur très chaude finalement.
Mais... C'est ça qui fait la différence des couleurs d'un violon à l'autre, qui est plus rouge ou plus brun ou plus foncé ou plus clair?
Il y a aussi le bois de santal qu'on emploie pour la teinture. Il y a plein d'autres possibilités de colorer le vernis, en fait. Et puis là, chacun cherche un peu sa spécialité. Mais c'est vrai que le pernambouc est assez spécial parce que ça fait presque peur quand on le met, le fait qu'il soit jaune, fluo, comme ça.
C'est un peu chimique.
Le violon qui est... Puis après, il faut un moment.
Et s'il y a des teintures violettes aussi qui sont faites à base de ces copeaux de bois?
Alors, justement, le pernambouc, avec l'alcool, il est jaune, mais il suffit qu'on mette de l'eau dedans et il devient violet, mais très appuyé. Et d'ailleurs, j'ai eu une fois un violon que j'ai fait avec le pernambouc. Il était jaune et lui, il est venu un rouge très foncé. Très vif, très... Ça réagit pas à chaque fois la même chose. Je sais pas encore si c'est l'humidité ou bien... En fait, ce que je fais, moi, je prends des archets qui ont été cassés, qu'on peut plus récupérer, puis je les rabote pour avoir les copeaux. Alors, est-ce qu'il y a des petites différences aussi après par rapport à la baguette de base, du bois de base? C'est pas chaque fois la même chose.
Donc ça, c'est pas contrôlable. Toujours dans la couleur d'un vernis pour le violon, on a des surprises parfois, Pierre-Louis.
Oui, mais bon, justement, en général, on essaye d'abord sur une plaquette en bois avant de vernir le violon.
Quoi. Mais après, on ne peut pas forcément reproduire. Si on trouve un très beau rouge, ça peut être par coup de chance et on n'arrive pas à le reproduire en faisant la même chose après avec le même bois.
En tout cas, c'est ce que j'essaye, mais je n'ai pas retrouvé encore. Ça, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Quand on prépare le vernis, c'est déjà, je pense, l'humidité ambiante qui peut déjà la transformer plus ou moins. Le fait que le pernambouc devient très, très violet au moment où on le mouille. Donc, est-ce que là, au moment où on le met avec le vernis, c'est ce moment-là qu'il ne faut pas louper le degré d'humidité. Mais ça, bon, ben.
Mais les teintures anciennes, les fameux vernis, on dit par exemple, on parle toujours des vernis de Stradivarius. Vous ne connaissez pas encore le pernambouc au XVIIe siècle aussi déjà?
J'ai vu nulle part qui parlait du pernambouc comme teinture par rapport à cette époque-là. Par contre, le bois de santal, ils en parlent. Ils parlent du sandragon, qui est une résine très rouge aussi. Mais bon, le fait que ce soit une résine, au moment où on le met dans le vernis, ça transforme aussi la qualité du vernis. Donc, comme ça, ça ajoute une résine en plus, quoi. Donc. Mais qui n'est pas forcément mauvaise, mais il faut aussi trouver les bons équilibres après, avec le vernis. Avec...
Il y a un bruit qui circule, la rumeur selon laquelle la qualité d'un vernis peut faire le son d'un violon. Ça, c'est un peu exagéré, Pierre-Louis?
Elle peut surtout le défaire. Non, c'est dans le sens que. Non, c'est vrai qu'un violon qui sonne bien à la base sans vernis, au moment où on met le vernis, donc avec... moi j'aime bien encore, c'est vrai, jouer les violons sans le vernis, c'est un son qui est. C'est un peu moins velouté qu'une fois que c'est verni. parce qu'on entend vraiment le son du bois. Mais moi, j'aime encore bien ça, ce petit côté âcre comme ça. Et quand on met un vernis dessus, ça adoucit un peu l'instrument. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention de ne pas mettre un vernis trop lourd ou trop dur qui tout de suite peut rendre beaucoup de sourdine à un instrument.
Étouffer l'instrument.
Ouais, ouais. Ça, le bois, il doit pouvoir vibrer librement. Il faut vraiment une couche fine et légère pour qu'il garde la sonorité un peu qu'il a sans le vernis. On essaye un vernis. Déjà, c'est long à trouver un peu une base. Et après, ça peut être bien pendant 2-3 ans. Puis après 3 ans, il peut commencer à sécher, à se craqueler. C'est une science qu'il faut aller. Il faut y aller très lentement. Et puis qu'on peut avoir des surprises. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de devoir, après 3-4 ans, enlever un vernis et puis recommencer pour...
On enlève comment ? On chauffe l'instrument, l'humidifie ?
Non, donc si c'est un vernis à l'alcool, il suffit de prendre un chiffon avec un peu d'alcool et puis ça s'enlève assez vite. Et les vernis à l'huile, donc là c'est des fois un peu plus difficile, sauf s'ils ont un peu de résine dedans, donc là on peut aussi avec l'alcool un peu les enlever.
Est-ce que le luthier prépare son vernis pour chaque violon ou bien est-ce que vous avez des pots dans votre atelier avec, quand vous avez trouvé un bon vernis, vous en faites une grande quantité et puis elle servira pour vos prochains violons?
Une fois qu'on a trouvé le bon vernis, c'est bien d'en faire assez parce qu'il y a aussi une transformation qui se fait dans le bocal et des fois, parce que j'essaye encore tous les jours de nouveaux vernis, mais c'est vrai que j'ai vu souvent qu'il y a une transformation qui se fait et puis qui est bien. Ouais, donc c'est bien de l'avoir un moment dans le bocal déjà mélangé. Ouais.
C'est le côté chimiste un peu du luthier. Là, ouais.
Donc là, on va bientôt pouvoir raboter la voûte, donc avec les petits rabots là, de luthier.
À la finition d'un des deux côtés, puis après creuser l'autre face.
Mais je pense que aujourd'hui on va réussir à faire déjà la face extérieure.
Là, il y a un qui est le fond et l'autre la table, c'est ça?
Oui, oui.
Et ils sont identiques encore, moi je ne vois pas de différence, comment vous les reconnaissez?
C'est de l'érable et l'autre du sapin, c'est exactement la même chose.
C'est pas le même bois, mais c'est la même forme.
Oui.
Donc c'est symétrique, si on regarde un violon dans sa tranche, on a là en principe la même voûte en haut et en bas.
Non, la voûte de la table est souvent un peu plus plate que le... Non, plus droite, elle forme un plateau comme ça, plus que le fond en général. Ouais. Mais ça après, chaque luthier fait un peu ses petites différences. Mais...
Samuel Pasquier, là vous êtes en train de préparer les contre-éclisses, donc ces petites baguettes à couper pour renforcer l'intérieur des éclisses, donc des côtés du violon. En fait, pendant tout ce stage, vous faites toutes sortes de travaux différents sur les bois. Quelle est la partie que vous préférez ?
De ce que j'ai fait cette année, c'est le cordier.
Le cordier ?
Oui.
Donc le collage du plaquage de l'ébène.
Voilà, ouais. Et puis après le rabotage pour obtenir une surface.
Voilà, le cordier est un petit peu arqué.
Voilà.
Et l'année passée, vous aviez participé déjà à l'atelier ici à Gruyère pour faire le luth médiéval. Voilà. C'est une grande différence de travail entre les instruments médiévaux et ces violons.
Oui, quand même, parce que c'est déjà pas la même façon de travailler. Le fait de voir les deux options de la lutherie, enfin les deux formes de la lutherie, c'est quand même assez intéressant.
Et vous intéressez à faire de la lutherie peut-être ?
Voilà, ouais, dans l'idéal.
Martin Mottet, vous êtes un autre des participants à ce stage de lutherie. Alors à la fin de la semaine, est-ce que c'était une belle expérience? Là, vous êtes en train de travailler les filets, donc comme le faisait tout à l'heure Anne-Catherine Gigi, les filets sur la table du violon.
Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. C'est autre chose que c'est vrai que c'est assez différent de faire un violon d'une guitare, par exemple, parce que ça, j'avais déjà vu mon père le faire. Et puis c'est autre chose, quoi. Et puis on remarque aussi des détails. Quand on voit un violon, on se dit, on remarque pas forcément la même chose que quand on le fait, disons. C'est...
Par exemple, quel détail est étonnant à fabriquer ?
Je sais pas, quand on voit un violon, on se dit, ouais, il y a un dessus, un dessous, et voilà, on marque pas forcément qu'il y a une voûte qui doit être creusée, tout ça, ou bien les filets, qu'il y a une petite rigole juste à l'endroit où ils sont, et ce genre de trucs.
Vous aurez l'occasion après de jouer de ce violon à Anne-Marie Gigi quand il sera terminé. Il sera à disposition du Conservatoire de Fribourg, je crois.
Il sera à disposition du Conservatoire de Fribourg, oui. Et j'espère bien que j'aurai l'occasion de le jouer.
Et vous avez déjà un violon baroque, hein?
Oui, oui.
Qui est quoi comme modèle? Qui vient d'où?
C'est un anglais, mais anonyme, alors on ne sait pas.
Qui sonne bien?
Oui, il me plaît beaucoup, oui.
Comment est-ce qu'on part à la recherche d'un violon baroque? On connaît des luthiers, on connaît des gens qui en vendent. Comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver cet instrument?
Moi, j'ai fait effectivement la tournée de plusieurs luthiers. Le violon baroque, en fait, il y a une diversité dans les violons qu'on trouve, qui est peut-être plus grande que pour un violon plus récent. Donc, il fallait aussi que je détermine un petit peu qu'est-ce que je veux comme type de violon baroque. Et... il y avait 2-3 critères qui étaient importants pour moi, c'est-à-dire vraiment le manche ancien, assez épais pour pouvoir tenir le violon dans la main.
Et puis... c'est la grande différence, parce qu'un violon moderne, on le pose beaucoup plus sur l'épaule, tandis que le violon à la baroque, il est un peu en l'air, on doit beaucoup plus le tenir.
C'est-à-dire qu'il repose sur la clavicule, mais effectivement, on le tient avec le pouce. Donc il y a une technique main gauche qu'il faut développer pour simplement stabiliser le violon. Je pense que c'est une technique plus facile à faire avec un manche un peu plus épais, parce qu'il tient mieux dans la main. Il y a aussi des violons intermédiaires, enfin de la période plutôt classique, donc fin période baroque, qui sont déjà un petit peu le manche un peu plus fin et qui sont un peu intermédiaires. Donc, au niveau de la sonorité, il y a aussi une différence. Ils répondent plus à des critères peut-être dont on est habitué quand on vient du violon moderne. Voilà, donc je pense que c'est ouais, il faut un petit peu de temps pour déterminer ça, puis après trouver l'instrument qui nous
et cet instrument anglais que vous avez, il est dans sa forme d'origine, c'est un instrument ancien, ou bien est-ce qu'il a été remonté à l'ancienne?
C'est un instrument ancien, bon, je ne sais pas exactement quelle période, mais fin 17e peut-être, à peu près. Il a été trouvé par un luthier complètement désossé, et puis la barre d'harmonie était très très fine, donc... probablement d'origine, et il a décidé de le monter
avec
baroque. Voilà, exactement.
Puis vous avez eu l'occasion aussi de jouer des instruments neufs, donc des copies d'anciens.
Alors ici, forcément, puisque j'ai pu jouer l'instrument de Pierre-Louis, que je trouve très beau d'ailleurs. J'aime beaucoup la sonorité de ces instruments.
C'est très différent d'avoir un instrument ancien qui a 3 siècles dans les mains, ou d'avoir un instrument tout neuf qui est fait comme à l'époque un Vivaldi aurait pu avoir un instrument neuf de son luthier du coin de Venise.
Oh, je pense qu'il y a une différence, oui. Moi personnellement, je suis touchée par les deux façons. Je trouve qu'un instrument ancien, ben, c'est un instrument qui porte en lui une histoire. Et puis un instrument moderne, on sait que le luthier est là et on a peut-être même eu la chance de pouvoir un tout petit peu suivre la construction. Il y a ce côté tellement vivant quoi, que je trouve merveilleux.
Il faut attendre longtemps avant qu'un violon neuf sonne à son idéal, à votre sens, Anne-Catherine Gigi.
Je pense qu'un... Enfin, je pense, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'un violon, un bon violon sonne tout de suite. C'est sûr que les quelques premiers mois, il y a une différence. Le violon vraiment s'ouvre chaque jour. Alors ça, on le travaille et on entend une grande différence. Et puis si on le laisse reposer un jour ou deux, il se referme et il faut le réveiller le matin. Beaucoup, on a besoin d'un peu plus de temps qu'un violon qui a eu une certaine... Puis après, il se stabilise un petit peu. Et puis, pour le violon baroque que j'ai eu, il a été bon, forcément remonté, je l'ai acheté. Donc là aussi, j'ai eu l'impression qu'en quelques mois, le fait d'avoir été joué, il a pris un petit peu de volume, il s'est ouvert. Ouais, ouais.
Un violon baroque que vous construisez, Pierre-Louis, quand est son apogée? Est-ce que c'est déjà tout de suite neuf ou bien est-ce que vous pensez qu'après quelques années, il doit attendre comme un bon vin, quelques années de vieillissement avant d'être à son top?
Alors, bon, un violon baroque ou moderne aussi, donc ça c'est pas, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence. Alors, ce qui se passe, c'est que quand moi je finis un instrument et que je mets les cordes, le premier jour, c'est... Je ne l'essaye jamais parce que en général, c'est très mauvais. Le grand changement, il se fait vraiment les premiers jours, en une semaine. Et après, c'est aussi le fait de le jouer. S'il est joué pendant 2-3 semaines par un violoniste qui le joue, j'entends, il faut vraiment qu'il joue bien dessus, qu'il le réveille. Là, c'est vrai qu'on sent une grande différence. Après, sur les années, je trouve que la courbe après est beaucoup moins...
Pas beaucoup de différence.
Ouais, ça reste plus stable. Maintenant, dans 100 ans, mes instruments, peut-être, là, je ne sais pas comment ils sonneront, mais...
Oh. Ils sont prévus pour durer au moins 100 ans.
Oui, ben, oui, après. C'est... Mais c'est vrai que je revois maintenant des instruments que j'ai faits il y a 10, 15 ans. Et donc, je me rappelle aussi par rapport à... Parce que je les suis quand même beaucoup. Souvent, une fois par année, je revois mes instruments en général. Et quand je prends après un violon neuf, justement, qui a été joué pendant un mois, ou celui qui a déjà 10 ans, bon, il y a des différences, mais c'est sûrement même déjà des différences qu'il y avait au départ. Mais au départ, justement, ce premier mois, s'il est beaucoup joué, il se nettoie, en fait. C'est vrai que quand on joue au départ, il y a beaucoup de bruit, on entend le bruit de la corde et tout ça, et ça part en le jouant... Mais c'est vraiment au départ que le travail se fait.
On peut les perdre, hein, ces petits rabots, Pierre-Louis.
Non, c'est vrai que quand il y a...
C'est minuscule, 2 cm de longueur. Utilisez-la pour la finition du bord de la table.
Ouais, bon, on va faire toute la voûte, en fait, avec ces petits rabots-là. Ouais. Parce que c'est vrai que dans tous les endroits creux, on est obligé d'aller avec des petits rabots quand on fait le dessous rond, pour faire ces creux, justement. Et puis là où c'est bombé, là on peut aller avec des rabots plats. Ouais.
Alors encore un participant à ce stage, Zoltan Despons, qui travaillait tout à l'heure donc, sur les chevilles en train de tourner. Quel est le travail prévu que vous avez préféré dans toutes ces semaines de cours?
Les chevilles.
Faire ses chevilles avec le temps. Mais vous aviez déjà utilisé un tour
Non, jamais. J'aime bien parce que ça se casse facilement, donc il faut vraiment être précis.
Et puis, il faut de la patience aussi.
Ouais, ça fait ces belles pièces qui sont là, qui sont encore toutes brutes, qui ressemblent à des grosses pièces de jeu d'échecs, puisqu'elles sont évidemment entièrement tournées. Donc après, il y a encore le bout à enlever, et puis il y a les et puis couper, de... scier dans la boule pour qu'elles deviennent des petites ailettes. Mm-hmm. Et vous avez un modèle qui est un modèle ancien, hein, à suivre. Et la difficulté, donc, c'est la fragilité du bois.
C'est la fragilité du bois et surtout de ne pas aller trop profond, parce qu'on est obligé de tout refaire.
Mais après, ça se termine au taille-crayon, comme on l'a vu.
Ouais, exactement. Donc il ne faut vraiment pas aller trop profond.
Ah, je prends note, David Maestrich, c'est à la finesse de la cheville qu'on juge de l'élégance de l'ensemble. C'est un des préceptes qu'on retiendra de cette semaine passée dans un atelier de musique baroque, de violon baroque. Il n'est pas fini ce violon.
Non, mais là c'était encore le samedi matin. L'atelier a duré jusqu'au dimanche après-midi, mais le violon n'était pas prévu d'être terminé, prêt à jouer, monté, etc. Il y avait encore le chevalet à découper et le vernis à faire, comme nous l'a dit Pierre-Louis. Et comme on l'a su aussi, ce violon sera donc à disposition du conservatoire de Fribourg pour les élèves qui seraient intéressés à jouer sur un instrument d'époque.
Alors on laisse les dernières couches sécher, puis pourquoi pas, peut-être que vous qui écoutez Musique en mémoire, vous aurez l'occasion de l'entendre ici ou là, ce violon construit lors de cet atelier qui a été organisé par l'association Guitare et Lutte.
Voilà, le quatrième, et on donne rendez-vous peut-être déjà l'année prochaine, toutes les dernières semaines d'août, depuis 4 ans, dans le château de Gruyère a lieu cet atelier de musique ancienne. Et cet atelier 2006 se concluait avec le concert de l'Assemblée des Honnêtes Curieux.
Oui.
Et nous allons terminer avec une sonate de Jean Ferry Rebel par ses interprètes.
Si on vous demande cette sonate de Jean Ferry Robel, c'est la troisième en si bémol majeur et elle est dite l'Apollon, la interprétée par l'Assemblée des Honnêtes Curieux, sous l'impulsion d'Amandine Beyer, par les mêmes interprètes et du même auteur. Je vous propose de jeter quelques fleurs sur le tombeau de Lully. Page du tombeau de Lully de Jean Ferry Robel, là interprété par l'Assemblée des Honnêtes Curieux, menée par Amandine Beyer. Musique en mémoire, oui, c'est fini pour aujourd'hui. Il y avait là pour l'assistance de production Isabelle Watson et pour la réalisation Dominique Stalder. Merci beaucoup, David Mestri, de cette semaine.
Merci à vous, Jean-Luc.
Passé dans un atelier de violon baroque.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24. Notre adresse internet, espace2.ch.
L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit des minuit, en nouvelle diffusion sur Espace 2. Mais nous, c'est lundi que nous avons rendez-vous avec Sylviane Falsinelli, qui viendra nous parler de Rolande Falsinelli, sa mère, grande organiste récemment disparue, et nous parlerons plus généralement de l'orgue français avec Sylviane Falsinelli, qui a donc été l'un des témoins de cette littérature et de cette interprétation de l'instrument. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Pourquoi pas ici ou là, l'écoute d'Espace 2. Bye bye.